BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Thomas Asportas, Good Evening Business.
Allez, 19h sur BFM Business, bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la deuxième partie de Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Thomas et rebonsoir à tous.
Alors dans l'actualité ce soir, eh bien, les partenaires sociaux visiblement font de la résistance. Ouais. Ils ont trouvé un accord, enfin presque tous les partenaires. L'UDP et les syndicats ont topé sur le compte épargne-temps universel, le fameux CETU, sans le MEDEF et la CPME. Évidemment, c'est une précision importante. On va débattre de tout ça avec nos experts, Audrey, jusqu'à 20h.
Et alors avec nos experts, justement, nous allons aussi débattre du nouveau pacte de stabilité, vous savez, les fameuses règles budgétaires européennes qui vient d'être adoptée par les députés européens. Alors, est-ce que c'est une réforme réussie? Réponse dans un instant. Et puis, on va aussi leur demander où va la voiture électrique, puisque là aussi, ça part un peu dans tous les sens. D'un côté, on nous dit que les ventes reculent, mais de l'autre, l'agence internationale nous annonce une année record pour 2024.
Effectivement, on a du mal à s'y retrouver. On posera la question donc à Stéphanie Villers, économiste et conseillère économique de PwC France, Nicolas Marquez, directeur général de l'Institut économique Molinari, et Frédéric Bocara, économiste et membre des économistes atterrés. Voilà le casting.
Ça nous promet un débat animé.
Bah, c'est bien la moindre des choses. Allez, c'est parti, en direct jusqu'à 20h.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage, la gestion intelligente qui réinvente la finance.
Good Evening Business, le journal.
Et avant de développer tous ces sujets, on se penche sur l'actu entreprise du soir avec les résultats du premier trimestre de Kering, le chiffre d'affaires du groupe du luxe pour le premier trimestre. Rebonsoir Pauline Tadevin.
Bonsoir.
Ce n'était pas une surprise, Kering avait lancé un profit warning le mois dernier, les résultats ne sont pas bons, mais on connaît quand même maintenant plus précisément l'ampleur des dégâts, Pauline.
Pour l'ensemble du groupe Kering, le chiffre d'affaires est en baisse de 10% au premier trimestre à 4,5 milliards d'euros, tiré vers le bas par une baisse de près de 20%, 18% comparable précisément pour Gucci, qui représente quand même la moitié des ventes totales du groupe. Le chiffre d'affaires de Gucci s'établit un peu plus de 2 milliards d'euros au premier trimestre. Il recule notamment dans la région Asie-Pacifique. Il n'est pas épargné par le ralentissement chinois qui pénalise globalement ce secteur du luxe. Compte tenu de ce recul et de notre détermination à continuer d'investir sur le long terme, dit François-Henri Pinault, le PDG du groupe, Kering anticipe une baisse de son résultat opérationnel courant de 40 à 45% au premier semestre par rapport à 2023.
Bon, donc c'est confirmé, c'est très mauvais. Comment est-ce que le groupe veut faire pour se sortir de cette mauvaise passe?
La direction mise notamment sur une montée en gamme, une élévation de toujours plus haut vers le haut de gamme pour l'ensemble des maisons du groupe. Visiblement, ça porte ses fruits chez Bottega Veneta. Kering souligne ce soir une très bonne performance grâce au positionnement très haut de gamme. La direction de Kering qui mise sur le temps long pour redresser le groupe. Il faut être patient, nous disait récemment un bon connaisseur du dossier. D'après le groupe, les choses se mettent en place chez Gucci, qui est donc le navire amiral. Les nouvelles collections de Sabato De Sarno, progressivement disponibles en boutique depuis mi-février, reçoivent un excellent accueil, notamment dans le prêt-à-porter et les chaussures, dit Kering ce soir. Un très proche du PDG François-Henri Pinault, Jean-François Palu, est en Italie depuis quelques mois, d'où il dirige maintenant Gucci. Il vient d'être rejoint par un ancien de chez LVMH, Stefano Cantino. Le groupe, au niveau donc, du groupe, renforce son organisation pour mettre en place une nouvelle stratégie. Jeudi, lors de l'Assemblée Générale, le nouveau binôme à la Direction Générale autour de François-Henri Pinault sera en quelque sorte intronisé. Le COMEX est musclé, le Conseil d'administration aussi. Ce soir, le groupe se montre confiant sur le fait que tout cela va finir par payer.
Bon, le groupe se remet en ordre de bataille pour essayer de redresser la barre. Merci beaucoup, Pauline Tadevin. 19h04, on poursuit avec le bilan 2023. Là, vous allez voir, ça n'a rien à voir. De la filière aéronautique, présentée ce matin par le GIFAS, la fédération du secteur. Et je dis que ça n'a rien à voir parce que là, les chiffres sont très très bon, un chiffre d'affaires en hausse de 9% des carnets de commandes qui sont pleins, une année 2024 qui s'annonce au moins tout aussi bonne, mais il y a quand même une ombre au tableau, un problème de riche, vous allez me le dire. Le secteur doit encore et toujours faire avec les pénuries, les fameux problèmes de logistique et de supply chain. Pour tenir la cadence, Jean-Baptiste Huette.
L'aéronautique française est sur un fil. Toutes les entreprises du secteur, petites ou grandes, font face à des difficultés d'approvisionnement. Titane, acier, aluminium, on cherche l'équilibre en permanence, explique Guillaume Faury, le patron du GIFAS et d'Airbus. Les industriels sont confrontés à une explosion des carnets de commandes. Rien que l'an dernier, Airbus a engrangé plus de 2000 commandes. Le motoriste Safran, 2500 moteurs. Satisfaire les clients en temps et en heure est devenu le défi. Devant le dynamisme du trafic aérien, les compagnies sont à la peine et donc intraitables. Il leur manque plusieurs centaines d'avions, explique Guillaume Faury. Pression supplémentaire, il faut des bras. Le secteur recherche cette année 30 000 personnes, en particulier des techniciens, explique-t-on au GIFAS. Toutes ces tensions ont aussi un impact sur la R&D, sur le futur, car il s'agit, indique Guillaume Faury, de choisir aujourd'hui des technologies qui reposent le moins possible sur des matériaux critiques. Électrification, aimant permanent, pile à combustible. Bref, un casse-tête de plus que doit tenter de résoudre rapidement tout le secteur aéronautique.
Jean-Baptiste Huet, 19h06, on poursuit avec cette mauvaise nouvelle pour le gouvernement qui ne pourra pas plafonner les indemnités de licenciement à Paris des traders et des salariés financiers. C'était pourtant une de ses mesures phares dans le projet de loi d'attractivité de la place de Paris pour essayer d'attirer au maximum les grandes banques anglo-saxonnes, mais le Conseil d'État s'y oppose. On voit ça avec Yohann Delra.
Licencier sans obstacle et à moindre coût, c'est la demande choc des grandes banques étrangères, principalement américaines. Beaucoup ont débarqué à Paris après le Brexit, mais elles ont identifié un point noir. Le licenciement d'un trader coûte trop cher en France, plus d'1 million d'euros, 7 fois plus qu'à Londres et 5 fois plus qu'en Allemagne. Des indemnités de départ trop élevées selon les patrons de Goldman Sachs et JP Morgan. Emmanuel Macron les a reçus il y a quelques mois à l'Élysée. Le député Renaissance qui porte la loi sur l'attractivité a donc tenté d'inclure une mesure. L'idée, limiter les indemnités de licenciement des traders et des financiers à 10 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit près de 460 000 euros. Problème, le Conseil d'État fait barrage, estimant que cela créerait une rupture d'égalité dans le droit commun. Impossible donc, en l'état, d'intégrer dans le texte cette mesure réclamée par la plupart des banques américaines.
Yohann Delra, 19h07. On poursuit avec cette question passionnante qui agite le secteur de la pharma. Qui de Pfizer ou de Moderna peut revendiquer la paternité de l'ARN messager, la technologie qui a permis de sortir le plus rapidement possible des vaccins contre le Covid? Un procès s'ouvre depuis aujourd'hui à Londres et jusqu'au 15 mai pour tenter d'établir la paternité des brevets de l'ARN messager. Hélène Cornet.
La bataille judiciaire est officiellement lancée. Moderna accuse Pfizer de violation de brevet. Le laboratoire estime que son concurrent a copié des éléments de sa technologie sans autorisation et surtout sans redevance. Le géant américain réplique en assurant que les brevets en question sont invalides. Difficile, voire impossible, de démêler le vrai du faux. L'un des brevets, par exemple, concernerait une innovation trouvée par 2 chercheurs de l'université de Pennsylvanie il y a plus de 20 ans. L'un d'entre eux est parti ensuite rejoindre les équipes de BioNTech pendant que Moderna signait un partenariat avec l'université. Le souci, c'est que les 2 vaccins se ressemblent énormément et que tous les brevets déposés incluent de larges extensions possibles. La plainte date de 2022 et aucun des 2 laboratoires n'a l'intention de lâcher l'affaire. Il s'agit d'un combat stratégique au-delà des vaccins anti-Covid. L'ARN messager est considéré comme la poule aux œufs d'or dans le développement d'une nouvelle génération de médicaments.
Hélène Cornet, et puis pour finir, dans l'actualité des médias, eh bien ça y est, Nicolas Taverneau passe officiellement la main aujourd'hui à son successeur chez M6, David Laramendi. Dans un contexte où les audiences de la chaîne baissent depuis 1 an et où son propriétaire, l'allemand Bertelsmann, cherche toujours à vendre M6. Le point sur l'avenir de la chaîne avec Mathieu Pechberti.
Le successeur de Nicolas de Taverneau va devoir jouer les équilibristes. D'un côté, David Laramendi devra relancer des audiences en perte de vitesse depuis 1 an. Celle d'M6 est tombée à 8,1% l'an passé et celle des petites chaînes W9 et 6 Ter stagne. Du coup, le chiffre d'affaires publicitaire a reculé d'1,5% l'an passé. De l'autre, le nouveau patron d'M6 ne pourra pas investir massivement dans les programmes alors que son propriétaire réclame des dividendes. Après avoir échoué à vendre M6 il y a 2 ans, Bertelsmann n'a pas l'intention de réinvestir. La loi lui interdit de céder le groupe avant 2028 alors que CMA-CGM, qui détient 10%, fait figure de favori pour le racheter. Mais dans le secteur, il se murmure que le groupe allemand a une parade. La loi plafonne sa participation à 49% tant que M6 réalise au moins 8% d'audience. La chaîne chercherait à limiter ses investissements dans les contenus pour abaisser son audience sous ce seuil désormais proche. M6 dément, mais si cela arrivait, Bertelsmann pourrait monter à 51% et mieux valoriser sa prime de contrôle avant de tout revendre dans 4 ans.
Mathieu Pechberti, 19h10, on retourne sur les marchés. Les marchés, je vous redonne la clôture du CAC à Paris qui finit dans le vert ce soir pour la deuxième séance consécutive de la semaine, plus 0,81% à 8105 points. Rebonsoir Aude Kersulec. Comment ça se passe à Wall Street?
Eh bien, on confirme la bonne passe d'hier dans le vert, les indices. Le Dow Jones qui monte de 0,6%, le S&P de plus de 1% et le Nasdaq plus 1,4%. La tech qui marche fort grâce à un léger reflux des taux obligataires américains, hein, le 2 ans et le 10 ans américains qui ont perdu 5 points de base, 4,59% pour le 10 ans américain. Les investisseurs qui ont acheté le creux hein, de la tech, c'était le cas chez Nvidia hier. Et des résultats d'entreprise aussi qui sont salués, c'est le cas par exemple, chez Spotify, la valeur est en hausse de 16%. 16%, alors on fête un trimestre de rentabilité hein, pour la société de streaming, 168 millions de dollars. Et puis aussi, on fête les 18 ans hein, de Spotify aujourd'hui. Donc ouais, l'entreprise,
c'est un bon âge.
Exactement. Plus 16% donc, pour cette valeur. Alors cela dit, aujourd'hui, ce soir, tous les yeux vont être tournés vers Tesla, qui publie après clôture. Le constructeur devrait annoncer son pire trimestre de l'histoire, baisse de chiffre d'affaires. Faire baisse de livraison. On va voir comment Elon Musk va tenter de rassurer le marché. En tout cas, pour le moment, l'action Tesla est en hausse de 2,2%, mais tout le marché monte aussi assez unanimement.
Merci beaucoup, Aude Kersulec. Et évidemment, on va regarder les résultats de Tesla de très très près. 19h12, on marque une pause et dans un instant, nos experts et Audrey Tcherkov nous rejoignent en plateau. On débat en direct jusqu'à 20h sur BFM Business. A tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h15 sur BFM Business, un casting de choc ce soir pour décrypter l'actualité économique pour vous. Stéphanie Villers, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste et conseillère économique de PwC France, Nicolas Marques, bienvenue.
Bonsoir.
Directeur général de l'Institut économique Molinari et Frédéric Bocquerac,
bonsoir.
Qui enlève sa veste,
oui,
économiste et membre des économistes atterrés.
C'est l'actualité.
En avril, on a besoin d'un
oui,
de se découvrir d'un fil en avril malgré tout. Parce
et bien c'est fait. Allez, on commence avec cet accord trouvé entre les syndicats et l'UDP, Thomas, donc sur le compte épargne-temps universel. Le fameux CETU. Le MEDEF et la CPME n'en veulent pas, mais ça n'a pas empêché les autres partenaires sociaux d'avancer et de se mettre d'accord. Alors, on peut déjà commencer par cette question assez simple. Est-ce que le compte épargne-temps universel est une bonne idée, Nicolas Marques?
J'ai pas d'avis. Moi, j'ai un avis sur un sujet très précis, c'est sur l'interventionnisme de l'État dans tous les sens. Parce que l'histoire française, la tradition française, c'est la protection sociale. Pour une grande partie, elle est paritaire, elle est gérée par les partenaires sociaux. Ça veut dire qu'il y a les syndicats de salariés, les organisations syndicales, le patronat, et ils se mettent d'accord. Et quand ils se mettent d'accord, ils créent la protection sociale où ils la font évoluer. Et là, depuis quelques années, on voit l'État, qui ne fait pas son travail en tant qu'employeur, hein, on y reviendra, qui décide à la place des partenaires sociaux, leur met le couteau sur la gorge et intervient dans tous les sens. Pour moi, la bonne vision, c'est un État qui, en tant qu'employeur, assumerait ses responsabilités et qui ferait en sorte que les régime de protection sociale soit bien géré. Je vous donne trois exemples. Un régime de protection sociale bien géré, il devrait avoir des réserves. L'État, dès qu'il envoie, il cherche à les piller.
Oui, c'est ça.
Il devrait provisionner certaines choses, parce qu'il y a des choses qu'on peut prévoir avec les réserves, notamment les chocs économiques, mais il y a des tendances lourdes, par exemple démographiques, ça mériterait de prévisionner. Et l'État, au lieu de les aider à faire ça, il fait l'inverse. Et donc, pour moi, il met la pagaille, il n'assume pas ses responsabilités, et c'est ça mon sujet.
Frédéric Bocquerat, j'imagine que vous êtes d'accord, à minima, avec tout ce qui vient d'être dit.
Comment dire? D'abord, moi, j'ai envie de dire une autre chose, c'est que je suis content qu'on mette en avant l'UDP. Je trouve que c'est une organisation intéressante. J'ai siégé pendant 6 ans au Conseil économique et social.
Oui, vous avez raison.
Avec mes collègues de l'UDP, qui sont à la fois, qui sont la fusion de ce qui était l'artisanat et de ce qui était les professions libérales.
On rappelle, c'est 3 millions de Français, professions indépendantes.
Voilà, c'est ça. Et le dialogue, moi, je l'ai expérimenté. Entre ce que je représentais, entre les organisations syndicales et UDP, est toujours beaucoup plus intéressant qu'il l'était avec le MEDEF, qui était très idéologique, malheureusement. Avec l'agriculture aussi, ça se passait beaucoup mieux. Voilà, donc je pense que s'il y a un accord qui est entre les organisations syndicales, l'ensemble des organisations syndicales et l'UDP, je pense que c'est un bon accord, et j'espère que les autres organisations patronales vont s'y rallier. Je voudrais ajouter, on parlera peut-être de l'assurance chômage après.
Oui, on va en parler.
L'État n'a pas pu s'empêcher sur l'assurance chômage, là aussi, d'aller faire J'allais dire hold-up.
Oui, oui, mais on va en parler après. Parce que si on reste sur le CETUP, et puisque vous connaissez bien l'UDP, Frédéric, est-ce que vous dites que c'est un coup de plume de la part du nouveau président? Parce que c'est quand même rare de voir l'UDP partir sur un sujet sans le MEDEF à ses côtés. Ou est-ce que c'est une question de conviction?
Je sais pas, mais on peut pas. Je pense qu'en tout cas, il y a depuis longtemps la volonté de manifester une autonomie et une spécificité de ce que sont les employeurs, c'était pas seulement des entreprises, de l'UDP, comme à un moment l'ont été les employeurs de l'économie sociale et solidaire. Et ça, je trouve que c'est bien. Alors, je voudrais insister sur une chose, c'est qu'on n'a pas toujours eu, après 45, la parité, le système paritaire au sens où on l'entend. C'était effectivement organisation professionnelle de patrons, en fait, d'employeurs et syndicats, mais c'était jusqu'en 67, trois quarts les organisations syndicales et un quart le patronat, comme la part dans la valeur ajoutée des salaires d'un côté et des profits de l'autre côté. En 67, on change et on fait 50-50, ce qui permet que si un seul syndicat lâche, ça devient du côté du patronat. Donc, mais en tout cas, l'idée qu'il y a un dialogue, oui, ça c'est très important, et de laisser faire le dialogue, c'est important aussi.
Alors,
et ça, c'est le Conseil national de la résistance qu'il a mis en place, notamment le grand ministre Ambroise Croizat. Notamment le grand Ambroise Croizat.
On rappelle l'idée de base de ce CETU, c'est en gros un sac à dos social, c'est-à-dire que les droits que vous avez acquis d'une entreprise, dans une entreprise, vous suivent quand vous changez d'entreprise et que vous allez dans la suivante. Est-ce qu'en soi, c'est une bonne idée? Est-ce que la philosophie est bonne?
Oui.
Ça va coûter plus cher aux entreprises.
Ça va, il y a une dépense, ça ne veut pas dire un coût, parce qu'il peut y avoir un avantage de l'autre côté. Avoir des salariés qui sont mieux.
Oui, bien sûr. Mais
depuis longtemps.
Le résultat, c'est une dépense qui n'existait pas.
Depuis janvier 1996, j'avance avec d'autres l'idée d'une sécurité d'emploi ou de formation, avec une transférabilité des droits et avec l'idée que emploi-formation, ça devient décisif et que la sécurisation devient décisive. Donc le mot a fait florès, des fois pour faire le contraire de la sécurité. Mais donc je pense que ça va dans le bon sens de ce point de vue-là aussi. Oui.
Nicolas Marquès ?
Il y a beaucoup de packaging, parce que la transférabilité des droits des jours de congé non pris, elle existe déjà dans le cadre des plans d'épargne retraite.
Ça n'existait pas, Nicolas, quand on changeait d'entreprise.
Mais si, parce que...
Non, puis tout le monde n'en a pas, surtout.
Si vous changez d'entreprise, vous gardez votre plan d'épargne retraite obligatoire ou collectif, et vous gardez vos droits.
Oui, d'accord, mais sauf qu'en effet...
C'est du capital accumulé,
Oui, mais Thomas a raison, parce qu'aujourd'hui, c'est 17% des salariés qui bénéficient seulement d'un compte épargne temps.
Tout le monde... Mais le sujet, c'est pas tant le compte épargne temps, parce que le compte épargne temps, quand on le regarde en tant que tel, c'est un très mauvais outil long terme. Le vrai intérêt pour les salariés, c'est d'avoir un PER obligatoire, un plan d'épargne retraite obligatoire ou collectif, et là-dedans, ils pourront mettre leurs jours de congé non pris, et ça, c'est des choses qui commencent à prendre. Donc, c'est vrai que le CETU simplifierait les choses pour ceux qui n'ont pas accès à ces outils-là, mais il y a déjà une forme de transférabilité qui fonctionne très très bien grâce à l'épargne retraite.
Ça va en tout cas, à minima, permettre à tous les salariés d'en bénéficier.
Je ne serai pas d'accord, malheureusement.
Mais je ne serai pas d'accord, parce qu'en réalité, le remède est pire que le mal, parce que passer par les marchés financiers pour ça, ça crée de la perversité. Par contre, effectivement, ce que je trouve intéressant...
Tout de suite, gros mot, Frédéric.
Ça a des effets pervers,
Alors lesquels?
Par contre, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'affirmer ce principe de transférabilité, même dans un seul domaine, c'est très important. Par exemple, une préparatrice en pharmacie, qui est employée dans une pharmacie, c'est un petit commerce, une pharmacie, c'est typiquement les employeurs de l'UDP. Ils sont 1, 2, 3, 4.
Bon, bref.
Voilà, c'est réglementé, tout ça. Mais
particulier à la pharmacie.
Oui, mais bon, si elle change de pharmacie parce que la pharmacie perd, eh ben elle perd son ancienneté. Donc il y a tout un problème de transférabilité. Et donc le salaire est renégocié à chaque fois. Donc il y a quand même il y a une grosse différence.
C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2022, le coup.
Oui, mais là c'est les employeurs là et les syndicalistes qui ont négocié.
Ah bah qui ont pris le sujet.
Voilà, c'est ça.
Et alors on le rappelle.
Mais donc il y a un sujet cotisation sociale derrière, bien sûr, pour financer ça. Donc mutualisation. Par l'ensemble de la valeur ajoutée, mais peut-être ça peut permettre une meilleure efficacité.
Et alors on disait, ce CETU, c'est un peu le pendant de l'échec des partenaires sociaux autour de l'assurance chômage, et notamment, enfin plus précisément sur l'emploi des seniors. Sur cette question du chômage, là, le gouvernement a décidé d'aller ultra vite, par décret, on ne peut pas faire plus vite, avec des nouvelles règles appliquées dès le 1er juillet. Il n'y aura pas donc de nouvelles lettres de cadrage ou de nouvelles concertations ou de projet de loi, rien de tout ça, un décret. Est-ce que pour vous, Stéphanie Villers, c'est de bonne politique? Est-ce que c'est une bonne méthode pour avancer?
Alors pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense qu'en fait l'échec des partenaires sociaux, c'est d'avoir accordé qu'on supprime en fait des cotisations sur le chômage côté salarié. Vous savez qu'on ne paye plus, le salarié ne paye plus ses cotisations chômage.
C'est 2017 ça?
Oui.
C'est la réforme 2017.
Donc, là en fait ça veut dire que les partenaires sociaux, ils n'ont plus réellement, les syndicats n'ont plus de poids, de pression vis-à-vis de l'État. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, l'État a tendance à maintenant vouloir faire absolument à la fois des réductions de dépenses et puiser dans les réserves. Alors, et ce qu'on voit en fait sur le système de retraite avec les Agirc-Arrco, pour autant, on continue, le salarié du privé continue à adhérer à ce système-là, cotise, donc ce qui fait que lorsque Agirc-Arrco dit non, vous touchez pas mes réserves, c'est pas facile pour l'État d'intervenir. Vous voyez, là, parce que justement, le salarié continue.
Oui, absolument. Alors, sauf que le petit bémol quand même, c'est que l'État ne va puiser que dans le surplus qui a été créé grâce à la réforme des retraites mise en place par le gouvernement.
Non.
C'est ce qu'il a voulu faire. Effectivement, comme l'exprime Stéphanie, il a du mal à y aller.
Bien sûr, là, il y a une vraie pression, puisque les syndicats ont un pouvoir économique et un pouvoir financier, puisque les salariés cotisent. Là, l'erreur qu'on fait.
Une légitimité, disons.
Oui, voilà, c'est ça,
une légitimité. Pouvoir de qu'il y a la légitimité.
En fait, ils représentent les salariés. Non, mais c'est vrai.
C'est la légitimité.
Alors, dans le régime général, ils se sentent chez eux.
C'est un pouvoir lié à la légitimité. Mais l'État peut passer derrière et imposer.
C'est ça l'échec. Les syndicats se retrouvent sans pouvoir réellement négocier à la marge, là. C'est que je parle sur les indemnités, le système d'assurance chômage. Ouais. Donc, petit à petit, bon, il suffit, en fait, c'est comme l'esprit chinois, il suffit de laisser le temps faire. En tout cas, il n'y a pas... En fait, les moyens financiers peuvent peser dans la balance. Quand on n'a plus de moyens de pression financière, et on pèse de moins en moins.
Donc un paritarisme mis à mal.
Oui, un paritarisme mis à mal alors qu'il fonctionne bien. Alors, on a évoqué deux sujets. Il y a l'assurance chômage. L'assurance chômage, notamment le sujet est financier. Il y a l'UNEDIC, qui est la structure financière, qui a été créée en 58 par les partenaires sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont excédentaires en moyenne de 7% sur 2022 et 2023. Donc franchement, vu de l'État... le rôle de l'État, ça ne devrait pas être de dire je réforme les règles, je décide le nombre de mois...
Mais c'est peut-être grâce aux réformes depuis 2017 que l'UNEDIC dégage ses excédents.
En partie. Mais un vrai État stratège dirait à l'UNEDIC, vous avez une dette qui représente 60 milliards, elle est anormalement élevée, vous avez prévu d'ici 2027 de la réduire à 40 milliards. Normalement, une structure comme ça, elle devrait avoir des réserves. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des chocs économiques.
Oui, il y a des
signes. Et c'est une anomalie. Mmh. Et ça, c'est ce que devrait dire l'État. Au lieu de dire, ça sera X mois, et la règle évoluera comme si, l'État devrait fixer un cadre réglementaire. Et pareil sur les retraites, qui est l'autre sujet. Là, les partenaires sociaux, ils se sont organisés depuis 1947, et ils n'ont jamais fait de dette en matière de retraite complémentaire à l'Agirc-Arrco, et l'État devrait dire il faut augmenter les réserves parce qu'il y a une tendance au vieillissement qui pèse sur les comptes, et l'État fait tout le contraire. L'État veut piquer les réserves en prétendant que sa réforme, la réforme qu'il vient de faire, facilite les choses. Mais c'est faux, parce que tout le monde sait que les partenaires sociaux, ils avaient anticipé la réforme, ils avaient créé une sorte de bonus-malus qu'ils ont supprimé puisqu'ils doublonnaient avec la réforme, et il n'y a plus de cagnotte. Le problème de l'Agirc-Arrco, c'est pas qu'il y a 70 milliards qui représentent 2% des promesses qu'ils ont faites, c'est qu'ils n'ont en réserve que 2% des promesses qu'ils ont faites. Vous regardez par exemple la répartition aux États-Unis qui a été créée par Roosevelt dans les années 30. Il y a des mois de réserve. On ne parle pas de 2%
de
la promesse.
Oui, absolument. C'est un régime qui impose d'avoir 18 mois de trésorerie d'avance. Donc, de toute façon,
l'État devrait laisser faire les partenaires sociaux quand ils font bien, et notamment ils font très bien en termes de retraite, et il devrait faire son job. Parce que l'État, au lieu de donner la leçon aux partenaires sociaux du secteur privé, il devrait faire son job en tant qu'employeur. Et la première chose qu'il devrait faire, c'est s'occuper des retraites des fonctionnaires. Parce qu'il a promis des retraites généreuses, il a tout à fait le droit en tant qu'employeur.
Non, il vient de les restreindre. Il vient de les restreindre.
Il les a pas provisionnés, et comme il les a pas provisionnés, ça vous gèle toutes les embauches, ça vous limite toutes les embauches, ça vous limite toutes les augmentations de salaire.
Oui.
Ça vous dégrade tout le rapport qualité-prix des services publics. Regardez, vous prenez un budget comme...
C'est d'allonger l'âge de la retraite qui limite les embauches.
Non, non,
pas dire
non.
N'importe quoi.
Franchement, c'est pas n'importe
c'est
quoi.
C'est d'allonger l'âge de la retraite de 2 ans
Frédéric,
qui limite des dizaines d'années d'embauches.
C'est la conséquence.
C'est l'Allemagne qui travaille jusqu'à 60 ans.
C'est la conséquence. En réalité, c'est la conséquence de l'imprévoyance de l'État.
Alors,
quand on regarde...
Terminez votre phrase et après,
c'est
à vous.
Quand on regarde...
le légal, mais le départ
effectif... Comme l'État n'a rien fait pour les retraites de ses personnels, la retraite...
Il a retardé 2 ans. Il n'a pas rien fait. Il a retardé 2 ans.
Laisse Nicolas terminer.
L'État a fermé les caisses de retraite en 1853 et il paie les retraites par le budget. Et aujourd'hui, les retraites, c'est 30% de la dépense d'éducation, 29% de la dépense de justice, 28% de la dépense de police. C'est totalement anormal. L'État aurait dû provisionner ça et on aurait tous plus de profs, mieux payés, moins de postes vacants.
Oui,
et des gens
on aurait un meilleur service public.
Non, mais ça, c'est le bonneto à la porte de Saint-Ouen.
C'est pas le bonneto à la porte de Saint-Ouen.
Si.
Tous les États responsables font ça.
Le que je mets là, il manque
alors,
toujours.
Allez-y, argumentez, bon, Frédéric Bocara.
Non. D'abord,
et après Stéphanie Villers.
C'est faux de dire que l'État n'a rien fait. Il vient d'allonger de 2 ans l'âge de la retraite.
Il n'a pas de caisse de retraite pour ses fonctionnaires.
Est en réalité beaucoup plus tôt et comme en France. Non, ce que je pense, il faut prendre les. Je prendrai les choses différemment.
En Allemagne, l'âge de départ à la retraite est plus tôt.
L'âge effectif, oui. Il est en moyenne...
Oui, mais il reste supérieur au nôtre.
Non, 63,9 en France et en Allemagne, d'après les chiffres d'Eurostat. L'âge effectif.
Alors, ce n'est pas les chiffres de PwC, mais ce n'est pas grave, allez-y.
Effectif. Mais je voudrais souligner le fait que le Premier ministre nous parle de violence et il prend des décisions violentes. Donc ça ne va pas. Donner l'exemple comme ça, dans
violente
une société...
Violente d'un point de vue social.
De ne pas débattre.
Oui.
D'imposer par décret sans cesse, ça pose un problème. Sur qu'est-ce que c'est le débat, qu'est-ce que c'est la politique.
Oui, mais quand on n'a pas de majorité, peut-on ne pas passer en force?
Ben oui.
Ah ben à ce moment-là, il se passe rien.
Non, on convainc, on peut. Et la deuxième chose, c'est qu'on fait à l'envers. On fait à l'envers parce que le point qu'on met en avant, je reviens sur l'assurance chômage, parce que le sujet, c'est l'assurance chômage avant les retraites. Le problème qu'on a, c'est un problème de qualification insuffisante dans le pays et de conditions de travail qui découragent. Or, tout ce qu'on fait, c'est dire aux gens, on va raccourcir la durée d'indemnisation, donc baisser l'indemnisation. Donc, premièrement, on va...
Ça, on ne sait pas encore. Hein. On ne sait pas. Apparemment, ça va être les conditions d'accès qui vont être durcies.
On va durcir les conditions, même chose.
Et... Ah oui, ça va être durci, ça. Oui. Oui, on ne sait pas comment, mais ça va être durci.
On ne va pas toucher au montant.
A priori.
Si on fait la somme sur plusieurs mois, on touche au montant de ce que les gens touchent, pas mensuellement, mais s'ils le touchent moins de mois, ça fera moins de montant. Et de toute façon, l'idée, c'est de dépenser moins.
La durée.
Donc, le problème, c'est d'arriver à mettre des gens dans des formations longues. Le problème, c'est d'anticiper les transitions.
Mais ça, c'est l'objet de France Travail, Frédéric.
Mais France Travail, le président de France Travail dit, ça va pas, les 2,5 milliards que vous avez promis de piquer à l'UNEDIC pour moi, vous me les donnez pas. Et donc, je vais pas y arriver. Il a fait une déclaration dans ce sens-là, vous l'avez vu comme moi.
Oui, tout à fait.
Mais on a besoin de former, j'insiste, c'est pas seulement le boulot de France Travail, c'est le boulot d'une formation professionnelle construite, publique, pas simplement des petits stages de ci, de là. Pour former un soudeur, il faut 10 ans, dont 8 ans de formation initiale et 3 ans de stage. Pour former des profs, pour former des soignants, parce que c'est là-dedans qu'il y a des demandes. Chaudronnier, c'est pas seulement pour les chaudrons du druide panoramix. Hein. Les locomotives, c'est un chaudron, par exemple. Hein. Même les TGV, c'est des chaudrons. Ouais. Donc, il faut tout ça. Et donc, on pourrait mobiliser le pays pour cette transition comme ça. Et donc, dire, effectivement, il y a quelque chose. Et là, à mon avis, il pourrait trouver des majorités. Il y a un grand soir à faire sur le lien formation professionnelle non-emploi, que j'appelle pas chômage. Et là, on pourrait emmener et des entreprises et de nouveaux financements. Je pense que c'est ça l'enjeu.
On marque une pause, le message est passé.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, la pause était très animée. Nous sommes avec Stéphanie Villers, Nicolas Marques et Frédéric Bocara. On parle maintenant du nouveau pacte de stabilité, puisque ça y est, les députés européens viennent d'adopter les nouvelles règles budgétaire européenne. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques parce que ça serait trop compliqué et on risquerait de perdre tout le monde. Mais pour faire simple, ces nouvelles règles, elles doivent permettre en tout cas aux pays, un, d'avoir des trajectoires individualisées de rétablissement de leurs comptes publics, des règles plus crédibles pour y parvenir et de pouvoir investir davantage. Est-ce que le compte y est, Frédéric Bocara ? avec ce nouveau pacte de stabilité?
Le compte, ça veut dire qu'il fallait faire plus ou moins. Non, c'est le sens qui pose problème.
Alors justement, est-ce qu'il y a plus de sens dans ces nouvelles règles?
On a voulu, effectivement...
Parce que les anciennes, elles n'étaient pas respectées.
Voilà. Et on a voulu mettre du réalisme.
Oui.
Mais en réalité, ce n'est pas du tout ce qu'il faudrait faire. La logique, c'est qu'il faut moins dépenser, tout en protégeant les investissements, parce qu'on sent bien qu'il y a un problème. Hein? Même si Louis Roy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, hier, il dit qu'il faut arrêter, il faut baisser, etc. Il ne faut pas augmenter les dépenses.
Non, il dit en France, il faut stabiliser les dépenses.
Oui, c'est ça. Il faut arrêter d'augmenter les dépenses.
Oui, bah,
Oui, c'est ça. Allez dire ça en Seine-Saint-Denis avec les enseignants. Hein? Allez dire ça dans les hôpitaux.
Non, mais attendez, pas dit qu'il fallait couper toutes
les dépenses
d'avenir.
Attendez, je ne vous demande pas de défendre Villeroy de Gallo.
Je n'en ai pas là pour défendre.
Voilà. Je dis simplement que on voit bien qu'il y a un problème dans ce prétendu réalisme. L'énorme quantité de dépenses dont on a besoin pour développer les services publics, c'est de l'emploi. On raisonne à l'ancienne avec l'investissement matériel. Mmh. Il faut des pré-recrutements dans la fonction publique. Il faut former et prendre un contrat d'embauche avec les gens pour qu'ils puissent travailler. Que ce soit, je reviens, je le répéterai malheureusement pendant longtemps encore, les profs, les infirmières, mais peut-être aussi les cheminots du fret ou du transport voyageur. On a besoin de former. Parce que si, par exemple, on dit on fait une exception pour l'investissement et qu'on fait des réseaux ferroviaires de fret et des trains et qu'on n'a pas de conducteurs. Problème. Mmh. Si on construit des hôpitaux et qu'on n'a pas de soignants.
Non mais on est tous d'accord avec ça.
Mais oui, mais donc il faut d'autres règles qui permettent de développer les dépenses autrement à 0%. Parce que, et je finis là-dessus,
ouais,
le principal problème de la dette, c'est pas son existence. Ça, c'est la vision des années 30 qui a montré son échec et qu'elle
s'est montée. Non, c'est son coût, c'est le coût de la dette le problème.
C'est les charges d'intérêt de la dette. Et l'Allemagne, qui a moins que la France, elle paye autant d'intérêts, un peu plus que la France.
Oui.
Elle paye plus de 60.
Non mais c'est pas que ça. C'est aussi les raisons pour lesquelles
la France,
parce qu'il y a
France paye 50 milliards d'intérêts.
Oui.
Et l'Allemagne paye 60 milliards d'intérêts de dette.
Ouais.
Et comme vous le dites, c'est comme le cholestérol, la dette. Ouais. Il y a de la bonne et de la mauvaise. Donc la bonne, c'est celle qui permet de développer, qui va créer de la valeur ajoutée, qui va faire que par la croissance, par le développement de la valeur ajoutée, ou par le développement des potentiels d'efficacité pour les entreprises, parce que les services publics servent à ça, on va pouvoir se développer. Et donc, il ne faut pas seulement mettre des exceptions pour les investissements, mais pour tout le développement des services publics avec leur emploi-formation.
Stéphanie Villers, comment est-ce que vous regardez ces nouvelles règles?
On n'a pas été d'accord, là.
Non, c'est le produit des Bauhaus,
c'est normal.
En fait, on va tout le temps redonner les chiffres du poids de la dépense publique à plus de 56%. On est quand même le pays qui dépense le plus avec en face un taux d'imposition sur le PIB qui est le plus élevé des pays de l'OCDE.
Donc c'est de la mutualisation.
Attendez, j'ai droit à mon petit bout.
Oui, c'est vrai, on entend ce que vous dites, on l'entend tous les jours.
Attendez, chacun a le droit de s'exprimer.
En quoi c'est mauvais la dépense publique?
Pourquoi c'est
mauvais que vos enfants aillent à l'école publique?
Non, mais sinon, ça s'appelle monologue. Donc là, c'est un débat.
Stéphanie.
Je
comprends toujours pas la cause.
Et
ça fait qu'on a des déficits. L'année dernière, on a eu un déficit de 5,5% du PIB, qui était quand même une grosse surprise, parce qu'il n'y a pas eu de choc supplémentaire. On sait qu'avant, il y avait une crise sanitaire, il y a une crise énergétique. Là, on s'est retrouvés sans choc. Et on fait partie des plus mauvais élèves de la classe avec l'Italie, avec un déficit aussi élevé. Or, lorsqu'on a un déficit, on s'endette et on s'endette auprès des marchés financiers. Et en fait, quand on s'endette auprès des marchés financiers, on dépend du bon vouloir des créanciers. Et donc, on ne peut pas fermer les yeux comme si on n'avait rien à craindre. Si on s'autofinançait, une entreprise qui s'autofinance, elle fait ce qu'elle veut de son argent. Lorsqu'on dépense, on dépense trop et on dépend des marchés, on est obligé de faire attention. D'autant qu'on voit bien que le gouvernement attend très fébrilement les résultats
des agences de notation
qui arrivent vendredi. Ça montre bien, en fait, qu'il y a une vraie menace et un vrai risque.
Oui, sauf que Stéphanie, quand on regarde l'histoire économique de la France, jamais aucune dégradation des agences de notation vis-à-vis de la dette française n'a posé aucun problème.
Oui, mais on ne peut pas dire comme c'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Je vous rappelle qu'en 2022, en octobre 2022, 2022, Liz Truss arrive Premier ministre, fait un budget avec une baisse massive d'impôts qui a priori peut plaire aux marchés financiers, qui est, les marchés financiers sont plutôt libéraux dans leur esprit. Il n'empêche que c'est retoqué. Derrière, Liz Truss démissionne, elle est à peine restée un mois et elle est, on est obligé, le Royaume-Uni est obligé de présenter un budget de rigueur. Donc on ne peut pas faire comme si la menace n'existait pas. Hein. On ne peut pas juste d'un revers de main dire de toute manière, on est financé facilement. Pourquoi ? Parce que la BCE a agi pendant toutes ces années Covid, que l'Allemagne était d'accord parce qu'elle aussi a subisé le Covid, mais maintenant on voit qu'il y a un changement de philosophie. On sait aussi qu'on est obligé de construire l'Europe pour faire face aux deux mastodontes qui sont les États-Unis et la Chine, que toute seule la France n'arrivera pas à faire grand-chose et que l'Allemagne, lorsqu'elle voit en fait un pays aussi dépensier, qui n'est pas capable de faire un seul budget de rigueur, mais on n'est pas à atteindre les 3%, on est en train de se dire que peut-être la France n'arrivera jamais à atteindre les 3%, sachant que l'ensemble des autres pays d'Europe y arrivent. Donc, on ne peut pas construire l'Europe si la France, en fait, arrive avec ses...
Oui, il y a nous et l'Italie.
Ses budgets.
Non, l'Italie, elle a un excédent primaire.
Oui, alors attendez, parce que je vois que Nicolas Marquez, pour ne pas déroger à la règle de sa présence sur ce plateau, a un graphique à nous partager.
Donc, moi, je vais abonder avec...
Pour ceux qui nous regardent à la télévision.
Ce que disait Stéphanie, parce qu'on dit de temps en temps, on n'a jamais eu de problème de notation de dette majeure, et on n'a jamais fait défaut. OK, mais historiquement... dans les années 90, on avait moins de dettes que les pays européens. Moi, je me souviens de mes profs de finances publiques qui me disaient à Dauphine, les règles de Maastricht, c'est nous qui les avons fixées, nous, les Français.
Avec l'Allemagne.
On les reste. Non, ils se.
Dans les Français. La doxa, c'était de dire que c'était une victoire française.
C'était une victoire française.
Oui, oui. C'était la doxa
et on
dominante.
Les respecterait toujours. Et c'est vrai que à l'époque, on était à moins de 60% du PIB en dette. Aujourd'hui, on est à 110. On est largement.
On est à 112, ouais.
À 111.
À peu près comme les Américains.
110,6.
C'est le dernier chiffre qui vient tout juste de sortir. Et en plus, l'INSEE a révisé les bases. C'est pour ça, Thomas. Et on est bien au-delà de l'Europe. L'Europe est en moyenne à 89%. Donc, on a un vrai sujet. Et pour reboucler sur ce que disait Stéphanie.
Oui, la dette de la zone euro a baissé de 2 points, la Suisse a hier. Deux points d'une année sur l'autre.
Notre dette, notre déficit,
c'est à cause du PIB.
Il finance des dépenses courantes. Il finance pas de l'investissement.
Les dépenses de fonctionnement.
Mais ça peut être des dépenses d'avenir, des dépenses courantes.
J'ai rien à redire, moi, en tant qu'économiste, quand on fait du déficit parce qu'on baisse les impôts de production, et au début ça coûte, mais ça relance l'économie, ça relance l'industrie. J'aurais rien à redire si l'État faisait plus de déficit et plus de dettes pour provisionner les retraites des fonctionnaires, ce qui lui ferait économiser 50 milliards d'euros par an. Le vrai problème, c'est qu'il dépense pour. Il s'endette pour payer les dépenses courantes. Et ça, c'est un vrai problème. Quand un ménage s'endette pour acheter son logement, ça s'appelle un investissement et c'est un investissement d'avenir.
Oui, c'est une dépense d'avenir.
Quand il s'endette pour payer les pâtes ou la sauce tomate qu'il va mettre dans les pâtes, c'est pas un investissement d'avenir et ça, c'est un problème.
Et on a un État. Il y a une dette qui fait défaut.
Endette, sans dette, qui nous endette pour payer les dépenses courantes.
Je
c'est totalement normal.
Je voulais rajouter un point, c'est que l'année dernière, en fait, l'indexation des retraites sur l'inflation, ça a coûté 18 milliards de plus sur le budget. Et même là, c'est des choix politiques et c'est pas des choix économiques. Derrière, en fait, les salariés n'ont pas été, à part le SMIC, ont pas vu leur salaire indexé sur l'inflation. Donc en fait, il y a des décisions qui sont purement politiques.
Les entreprises ont beaucoup augmenté les salaires quand même.
Qui coûtent
en moyenne à peu près.
Mais le rattrapage.
Rattrapage a posteriori, il y a une petite perte.
Là, il y a, c'est le rattrapage. Là, c'est fait au même moment.
Vous
voyez, donc ça coûte 18 milliards. Hein, c'est pas l'épaisseur du trait.
Alors, je vais pas être d'accord exceptionnellement avec Stéphanie.
Vous avez le droit. On a le droit.
C'est-à-dire que quand l'Agirc-Arrco ou l'ERAF, le fonds de pension des fonctionnaires, augmente les retraites, ils ont des réserves et ils ont des provisions. Moi, je suis pas gêné. Par contre, je suis gêné quand l'État augmente les retraites des fonctionnaires. Il n'y a toujours pas de caisse de retraite parce qu'il l'a fermée en 1853. Et quand l'État augmente les retraites du régime général, qui est 2 années sur 3 en déficit, parce que là, il n'y a pas d'argent, donc ça creuse la dette. Mais si les retraites sont bien provisionnées, ben pourquoi pas les augmenter ?
Alors quand même, parce que vous avez raison, c'est parce que la dette est détenue par les marchés financiers que ça pose problème. Mais je l'explique dans ce livre, Une autre Europe contre l'austérité pour le progrès social en coopération, un autre euro, publié au temps des cerises, déjà en 2014. On peut créer un fonds européen qui prend les dépenses publiques des États, qui reçoit la création monétaire de la Banque Centrale Européenne et qui va financer à 0% les dépenses publiques des États. On peut le faire. C'est possible à l'intérieur des traités européens. Et l'Allemagne en a autant besoin que la France.
Elle veut
parce qu'il faut ouvrir le débat.
Elle ne veut pas.
Elle ne veut pas. L'Europe, c'est nous. Donc il faut pousser des propositions. Il faut oser. Comme dirait De Gaulle, on ne peut pas être dans les conformismes existants.
Mais
les Allemands, par exemple, ils disent qu'il nous manque 100 000 soignants.
presque comme nous. Ils disent qu'il nous manque 14 000 enseignants. Donc les Allemands aussi ont besoin de dépenses. Parce que derrière ça, l'État, ce n'est pas un ménage. L'État, il peut faire des dépenses de développement. Et j'insiste, les dépenses que vous dites courantes, les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les salaires, les pré-recrutements de fonctionnaires, c'est des dépenses d'avenir. Les dépenses pour la recherche, les chercheurs, c'est des dépenses d'avenir.
La dette,
c'est
pas de la consommation. Oh. On l'a fait avec des dépenses courantes, Frédéric.
Oui, mais vous regardez dans le rétroviseur.
Non,
c'est
non,
pas
non,
de la consommation.
C'est pas le rétroviseur,
c'est de la dépense d'avenir. Ce n'est pas de la dépense stérile, bien
fait,
au contraire. La recherche, nous en avons besoin.
Ça fait 40 ans
l'éducation,
qu'on dit ça.
Nous en avons. Mais non.
Mais si.
Nous mettons.
Mais c'est
nous mettons
80,
un quart du but, plus d'un quart, près de la moitié du budget de l'État dans des aides aux entreprises avec comme condition de faire des bas salaires.
Non, mais moi je me souviens de 80%.
C'est
de
ça quand même.
Oui, ça se traduit pas dans la croissance.
Qui disait
voilà.
Ça.
Et donc ça ne se traduit pas dans la croissance, alors que les dépenses qui permettent de développer le potentiel de croissance, mais Marcus le dirait, elles permettent de préparer l'avenir. Donc il y a tout un problème de ne pas se mettre comme idée l'épargne préalable, mais la possibilité d'une dépense qui va créer des richesses. Et c'est là-dessus qu'il faut de la démocratie, c'est là-dessus qu'il faut de la visée du contrôle et des outils communs avec nos partenaires européens, parce qu'effectivement, avec la Chine et les États-Unis, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il y a un problème dollar aussi derrière.
Mais alors justement, d'accord. Attendez, parce que j'ai une question très précise à vous poser sur ce nouveau pacte de stabilité budgétaire. Les dépenses publiques, à partir de maintenant, vont être évaluées selon le concept des dépenses primaires, c'est-à-dire en excluant les taux d'intérêt ou les effets fiscaux.
Les charges d'intérêt, vous
voilà, exactement. Est-ce que ça va permettre à la France d'afficher un redressement qui pourrait être en partie virtuel de ses comptes publics?
Un meilleur pilotage?
Ben non, parce qu'en en fait, on est incapable d'équilibrer nos comptes primaires. Et notamment parce qu'on n'a pas remis en ordre nos finances publiques.
C'est toujours une vision comptable. Il faut les évaluer en fonction de ce qu'elles vont permettre d'apporter à l'économie.
Une des raisons pour lesquelles on n'est pas capable d'équilibrer nos comptes, c'est qu'on subit en France l'effet du vieillissement. Alors, il existe aussi en Allemagne, il existe aussi en Italie, il existe en Espagne. Tous ces pays n'ont pas provisionné les dépenses de vieillissement. Et plus on dérive, plus c'est problématique.
Provisions d'abord, c'est le contraire de ce qu'on a fait pour sortir des difficultés en 44.
Vous allez aux Pays-Bas, les dépenses de retraite sont provisionnées et les comptes publics sont structurellement équilibrés. Et donc, tant qu'on ne fera pas ça, on aura des comptes qui seront déséquilibrés. Je vous donne un chiffre. Les dépenses de personnel de l'État, c'est 160 milliards. Quand on les regarde, il y a 60 milliards pour payer les retraites des anciens fonctionnaires, et 100 milliards pour payer les retraites.
Mais ces 60 milliards font vivre l'économie aussi.
Mais ces 60 milliards ne font pas vivre l'économie.
Ah bon ?
C'est 60
ah bon ? Et la silver économie des retraités ?
Non mais
où elle va, celle-là ?
Frédéric,
ça c'est
Frédéric,
franchement,
Frédéric,
si on peut pas les en dessous
non,
et de Keynes et de Hayek.
Frédéric, alors Nicolas, Stéphanie après.
Je suis très, c'est clair.
Non, faut pas dire n'importe quoi. Les 60 milliards que consomment les retraités, ça compte pas dans l'économie.
Ce qui fait le vieillissement.
Non, bien sûr. Mais là, c'est du charlatanisme.
Non, c'est pas du charlatanisme. C'est ce que font tous
les 60 milliards de consommation des personnes âgées, des retraités.
C'est 60 milliards d'impôts. Donc,
oui, c'est irresponsable. Vous avez raison, ce que vous dites est irresponsable.
Et ce qui crée la richesse, c'est quand on épargne, parce que ça allège le
financement. Ça crée pas de richesse, l'épargne.
Mais Frédéric,
ça prend de la richesse sur l'existence. Vous croyez, c'est votre dogme, que l'épargne préalable va permettre demain de faire. Ça crée pas de richesse.
Frédéric, vraiment.
On est d'accord que ça crée pas de richesse en soi. L'épargne. C'est une prise sur la richesse existante, l'épargne. C'est faux que ça crée de la richesse. Ce qui crée de la richesse, c'est une dépense, un investissement.
Frédéric, tu raisonnes, on doit s'en
aller. Allez, on passe la balle, Frédéric.
Alors, Stéphanie veut parler, elle n'a pas beaucoup parlé, je lui passe la balle. Mais clairement, l'épargne
non, mais
crée de la richesse.
Je passe la balle alors.
Moi, je conserve pendant une minute, hein, vous ne m'interrompez pas, parce que moi, je ne peux pas, après, je n'arrive pas. Donc, en fait, on voit bien que le problème, quand même, c'est tout ce qui est les dépenses de retraite et le vieillissement de la population, en fait, qui pèse sur.
Prends mes lunettes.
Sur les comptes publics. Donc, et puis, en fait, ce qu'on oublie, c'est que à Gircarco, vous me dites, effectivement, il y a une grosse réserve de 70 milliards. Mais elles sont placées. Ils sont placés où, ces réserves? Eh bien, sur les marchés des capitaux. Donc, en fait, le système géré par les partenaires sociaux est un système de retraite par capitalisation qui ne le dit pas. Hein, et donc, en fait, c'est comme un gros mot. Mais oui, j'ai travaillé dedans, je sais bien. Donc, cet argent-là est replacé sur les marchés financiers. L'épargne, ça ne sert pas à rien, ça finance la dette publique, ça finance la dette publique et ça finance les entreprises.
Attendez, on laisse Stéphanie terminer.
En fait, on parler. Ne parle pas, on ne dit pas la vérité.
Oui, effectivement, vous dites des choses déformées.
Là, effectivement, on ne... Là, j'ai pas l'habitude, hein. Franchement.
Ah, mais c'est genre, vous avez prévu.
Attendez, on vous écoute, Stéphanie, on vous écoute. Mais non, mais attendez.
Frédéric, Stéphanie Villers, c'est terminé. Attendez, Stéphanie, allez, je veux que les gens retiennent que notre système de répartition, qui effectivement est efficace et qui marche bien, a toute une partie de ses réserves qui est placée sur les marchés financiers. Et ça, c'est de la capitalisation. Donc, on a déjà un pas sur la capitalisation. Donc, quand on a une dépense publique qui pèse à cause des retraites, il faut quand même ouvrir le débat et essayer de, en fait, d'alléger ce poids des cotisations et de dire il y a une partie qui peut être prise par le salarié à travers l'épargne retraite et donc la retraite par capitalisation.
J'ai une question pour finir.
Bon, on a bien compris ce que vous dites. Vous dites on voit que, parce que vous dites 60 milliards pour les retraites. Ça, c'est vous qui voyez que. Mais on peut dire aussi on voit que 50 milliards sont payés pour les intérêts, 50 milliards et 60 milliards, c'est à peu près la même chose. Donc on pourrait dire que le problème, c'est qu'on n'emprunte pas à 0%. Donc vous voyez qu'il faut ouvrir les choses. Et l'épargne, je maintiens, c'est une prise sur l'existant, ça ne fait pas de la croissance. Ça peut financer des choses pour demain, mais ce n'est pas de l'investissement nécessairement. Quand c'est placé sur les marchés financiers, c'est rarement de l'investissement. Chacun le sait. Ah bon. Mais vous, dans les manuels d'économie, on vous embrouille suffisamment pour que vous perdiez la réalité. Je connais, j'ai fait aussi des diplômes d'économie. Mais alors qu'une dépense d'avenir, ça peut faire de la croissance.
Non, mais il faut c'est pas voir, parce qu'on n'est pas d'accord avec vous.
Il ne faut pas nécessairement de la croissance, mais il faut ouvrir l'esprit pour voir.
Ah bah, alors, vous avez un esprit qui n'est pas très ouvert.
On va dézoomer,
Je l'ouvre pour vous dire il faut voir le type de dépense.
Là, on voit. Et on se passionne et on se déchire pour voir comment mieux gérer nos finances publiques en Europe. On a l'impression que les Américains et les Chinois ne se posent pas du tout la question. Est-ce qu'on est les seuls sur la planète à se soucier de nos comptes publics ?
En 1 minute 30.
En 1 minute.
Alors il faut rappeler que les Américains. Rappeler les faits. Les Américains, ils ont un taux d'endettement par rapport au PIB aussi élevé, un peu plus même que la
plus,
France.
Plus élevé
c'est 120%.
Que la France.
Ouais. Non.
Plus que la France.
Ce n'est pas un sujet dollars. Pour eux.
Vous êtes,
voilà,
alors, Nicolas, vous êtes en train de vous faire avoir. Parce que aux États-Unis, quand on regarde la dette publique, on intègre la promesse faite aux fonctionnaires. Quand on regarde la dette publique en Europe, on n'intègre pas les promesses faites aux fonctionnaires. Donc quand on corrige cette erreur, c'est la France qui est plus endettée que les États-Unis. Frédéric ?
Ok,
c'est clair.
Je ne t'ai pas dit non, je vais regarder.
Stéphanie Villers.
Notre monnaie à 20 ans, l'euro, c'est une toute jeune monnaie. Et donc, en fait, pour lui donner en fait, sa stabilité et qu'elle soit admise par tous, il a bien fallu avoir des critères de rigueur qui pouvaient laisser penser que en fait, cette zone monétaire était une zone de stabilité.
Crédible.
Voilà, et crédible. Et donc, on n'est pas les États-Unis, il faut se dire, on n'est pas la première puissance mondiale. On n'a pas cet avantage-là quand, effectivement, la première puissance mondiale peut vivre à crédit. C'est-à-dire que tout le monde leur prête de l'argent.
Et bien voilà qui aura mis d'accord tout le monde.
Bon.
Oui, la question, c'est le dollar et comment on fait par rapport au dollar pour pouvoir se développer.
Oui, parce qu'on n'a pas le temps de répondre à cette question.
Non, le problème posé, c'est le FMI. Il faut une mutualisation mondiale des dépenses de développement. Parce que nous n'avons pas parlé du Sud, qui lui est étranglé aussi.
Donc c'est nous.
Et on ne peut pas faire sans le Sud.
Alors, allez, c'est
comme après 45.
C'est l'heure de passer à l'extra time, aux arrêts de jeu, les coups de cœur et
coup de gueule en 30 secondes. Alors, Frédéric Bocara, 30 secondes. Hein,
ouais. Alors, un coup de cœur pour les salariés de la SNCF qui ont réussi effectivement une négociation gagnant-gagnant, parce que je pense que pour effectivement organiser des départs en retraite plus tôt, ce qui va permettre d'assainir la situation sociale dans l'entreprise, en partie, peut aller vers un assainissement de la situation sociale de l'entreprise, des recrutements de jeunes et une meilleure attractivité. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à voir, même si derrière se pose la question des charges financières et du poids du coût du capital sur la SNCF, et est-ce qu'il va y avoir effectivement des remplacements de départ en retraite par des embauches de jeunes.
Voilà, et vous avez respecté le timing imparti. Bravo Frédéric. Stéphanie, c'est à vous.
Moi, c'est pour rester sur le même thème. Là, les chiffres, effectivement, de la dette sont tombés. En Europe, en fait, la dette globale est en train de baisser. On est passé de 90 à 88. Et puis, il y a nous, les Français, en fait, qui, eux, enfin, on reste quand même à des niveaux nettement supérieurs, hein, plus de 15 points de PIB avec 110% du PIB. Et donc, on est pourtant la deuxième puissance de la zone euro, mais on est véritablement le mauvais élève et on risque d'être mis à l'écart.
On est la deuxième puissance économique, mais le deuxième en partant de la fin sur la dette.
Voilà.
Bon. Ouais. Troisième, pardon, avec Grèce et Italie. Mais deuxième sur déficit. Nicolas Marquez, pour finir.
Coup de cœur pour la Banque de France. Elle a promis 13 milliards de retraites et elle avait 14 milliards de côté. Donc, elle a trop d'argent par rapport aux retraites qu'elle a promises. Donc, ça lui a permis de réévaluer les retraites sans faire du déficit. Et ça lui a permis, l'an passé, de rendre 800 millions à l'État. Depuis 2020, la Banque de France, elle a rendu 2,6 milliards à l'État parce qu'elle a trop d'argent par rapport aux retraites qu'elle a promises. Donc Frédéric, il faudra regarder ces chiffres parce qu'il faut vraiment changer.
Le boulot de la Banque de France, c'est de permettre la croissance par son refinancement du crédit. Elle le fait très mal. Donc
si l'État faisait comme la Banque de France,
qui manque.
Si l'État faisait comme la Banque de France, il économiserait 50 milliards par an.
Ouais.
50 milliards.
Peut-être que la Banque de France, elle manque 100 milliards de croissance parce que son refinancement des banques.
Il faut regarder tous les chiffres.
On ne relance pas le débat. Il est terminé.
Merci. L'émission est déjà terminée. Regardez, ça clignote de partout. Le stade va bientôt s'éteindre. Merci à tous les trois, Frédéric. Eric Bocara, Stéphanie Veller et Nicolas Marquez. Et merci à vous, Audrey.
Mais merci à vous, Thomas. L'émission est à retrouver, évidemment, comme tous les soirs. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est sur toutes les plateformes, sur bfmbusiness.com. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain soir pour de nouvelles aventures.
Absolument. Dans un instant, toute l'actu de la tech. Tech & Co en direct avec Frédéric Simotel. Bonne soirée.
À demain.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.